Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Vieillir, c'est savoir perdre, disait ce cher Georges Wolinski. Perdre, mais aussi gagner, continuer à se projeter, à construire, à créer, à rester curieux, freiner le processus de vieillissement avec des armes fiables à portée de main, une certaine hygiène de vie, certes, mais sans tomber dans un ascétisme de tous les instants, conserver le plus longtemps possible le plaisir de vivre, de bouger, de manger, et ne pas oublier que vieillir n'est pas une maladie et que cela ne se résume pas à un cortège de pathologies chroniques. Nos experts évoqueront les piliers fondamentaux pour bien vivre et bien manger, pour bien vieillir. Nous attendons toutes vos questions au 01 45 24 7000 et vous pouvez également nous laisser un message, une note vocale sur l'appli France Inter. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Ali.
Médecin et romancier, quel est le menu de votre chronique? Alors voilà.
Je vais évoquer un de ces petits moments qui rappellent pourquoi on se lève le matin pour soigner.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Vous ne mangez pas, Tati?
Merci, j'ai pas faim.
Qu'est-ce que c'est comme viande?
Un petit cassis de veau au basilic.
J'ai horreur du basilic.
Oh, mais je suis désolée, je savais pas.
Vous le saurez.
Ah, si Tati Daniel avait connu Grand Bien vous fasse, nous l'aurions aidé à retrouver la joie de vivre et le plaisir de manger. Bonjour docteur Christophe de Jageur.
Bonjour.
Médecin gériatre, spécialiste du vieillissement, dernier ouvrage paru, Bien vieillir sans médicaments. Bonjour docteur Patrick Serogue.
Bonjour.
Médecin nutritionniste, vous venez de publier chez InPress avec la psychologue et psychanalyste Roselyne Lévy-Bass, Bien manger, bien vivre, bien vieillir. Peut-on affirmer que l'on ne peut bien vieillir que si l'on est bien vécu, docteur Serogue?
Alors, pas forcément, puisque même si on n'a pas très bien vécu, on peut arriver à l'âge de la maturité ou l'âge de la vieillesse avec, au contraire, de bonnes dispositions pour finir sa vie très agréablement.
Christophe de Jageur.
Oui, en fait, j'avais en tête, en vous écoutant, certains exemples de gens qui ont toujours été très désagréables, très méchants pour les uns et les autres, et je pense du coup à cette Tati Daniel, qui a vécu très longtemps,
oui, c'est vrai,
mais en étant une petite peste. Ouais. Donc c'est pas si simple que ça.
Pourquoi vieillir reste quelque chose d'effrayant pour la plupart d'entre nous? Le vieillissement associé très souvent à un cortège de pathologies chroniques, de dégénérescence.
Alors, le vrai problème, c'est pas vieillir. Le vrai problème, c'est comment, dans quel état on vieillit. Et ce que les gens redoutent, c'est en fait la perte d'autonomie. Et c'est le problème. Je vous rappelle les statistiques. L'espérance de vie en bonne santé en France, en bonne santé sans incapacité, c'est 63 ans pour un homme, 65 ans pour une femme, alors que l'espérance de vie totale est de presque 80 ans pour un homme et 85 ans pour une femme. Donc la problématique, elle est ces 20 dernières années. Dans quel état allons-nous les passer? Est-ce qu'on va être dépendant? Et c'est cette perte d'autonomie qui est la terreur de la plupart des gens.
Et il y a une chose qui vous agace un petit peu, c'est de croire que l'on ne peut rien faire et de se dire à quoi bon lutter contre un phénomène inéluctable, qu'est le vieillissement.
Alors, d'abord, on a fait d'énormes progrès en termes de science sur ces 20 dernières années et l'inéluctable devient très relatif. On a plein d'expériences animales où on voit qu'on est capable de faire exploser l'espérance de vie de ces animaux. Il y a énormément de gens qui s'intéressent maintenant à une très grande augmentation de cette espérance de vie, et on voit que même le dernier milliardaire Bezos s'est lancé dans l'affaire de l'immortalité, entre guillemets. Je dis entre guillemets, hein, parce que c'est l'immortalité, c'est un concept très abstrait, en fait. Mais ce que moi je pense, c'est que on peut tous être acteurs de son vieillissement. Et parfois, justement, avec des moyens relativement simples. Donc on n'est pas prisonnier de nos gènes, et on peut changer, améliorer notre destin et vivre plus longtemps et mieux. Et ça, ça n'a pas de prix.
Docteur Patrick Serogue.
C'est-à-dire que je dirais que la vieillesse, ça se prépare. Il y a un moment donné où on change d'activité professionnelle, on sent qu'on n'a plus les mêmes capacités. Alors, il faut penser comment on va faire pour y arriver.
Et ça se prépare à la trentaine, à la quarantaine, à la cinquantaine, ça se prépare quand?
En général, ça se prépare plutôt tardivement. Quand on a 30 ans, on pense absolument pas à ce moment-là et on n'a pas du tout envie d'y penser. Puis on trouve les autres qui sont plus vieux, ils sont déjà très vieux. Bon. Donc non, on n'a pas envie d'y penser. Il y a un moment donné, on commence à y penser. C'est souvent au moment où on va quitter son activité professionnelle, où là, on va repenser sa vie. Et pour certains, c'est beaucoup plus tard.
Alors, ça c'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce que justement, on voit émerger une toute nouvelle population. Avant, c'est vrai, c'était un an, cinq ans avant sa prise de retraite qu'on commençait à y réfléchir. Mais maintenant, on a des gens de 50 ans qui sont en pleine activité, de 40 ans, qui se disent « Ouh là là, mais ce que j'ai de plus précieux, c'est mon capital santé, comment le gérer au mieux ?» Et ça, c'est très intéressant parce que c'est une vague de fond qui commence à arriver. Ils se disent pas « J'ai pas envie, 20 ans, 20, 30 ans, c'est clair que on a telle réserve que vieillir, on sait pas ce que ça veut dire. Hein. Mais 30, 50, moi je considère que c'est le hold-up de la vie. C'est vraiment nos 20 plus belles années. Et entre la famille et le boulot, elles s'évanouissent. Mais on voit des gens maintenant qui sont de plus en plus conscients. Alors ça vient aussi un peu de la mode américaine, où de plus en plus on s'intéresse à son corps, son esprit. Et je pense que ça, c'est très favorable.
Docteur Serog. Non, pour moi, si vous voulez, quel que soit l'âge à laquelle on décide de penser, on pense d'abord à sa santé, pour préserver, comme vous le dites, sa santé. Mais après, il faut penser à ce qu'on va faire de son temps. Et ça, c'est souvent une angoisse d'ailleurs pour les gens. Ils savent pas comment se débrouiller pour essayer d'occuper leur temps. Alors ce n'est pas occuper, c'est d'avoir un projet. C'est toute la différence pour moi, pour le bon vieillissement.
Donner du sens à sa vie.
Donner du sens à sa vie. Ça, c'est pour moi le point fondamental. Et ensuite, il y a effectivement un certain nombre de choses qui vont changer.
C'était un problème d'ailleurs, parce que lorsqu'on a fait diminuer l'âge de la retraite, finalement, on a mis des tas de gens sur un banc de touche. Et avoir le projet est indispensable pour bien vieillir. Et justement, beaucoup de gens, et nous, dans notre corporation de médecins, on en voit qui continuent et qui continuent, parce que finalement, c'est leur métier, c'est leur bonheur.
C'est leur projet de vie.
C'est leur projet de vie. Et là, quand la retraite arrive, c'est un malheur. Ils savent pas quoi faire. Et là, les maladies surviennent.
Exactement.
Ce qui est fondamental, c'est d'être à l'écoute de soi, car nous vivons des réalités très différentes. Deux femmes de 70 ans, deux hommes du même âge ne vivent pas la même réalité. Dans une précédente émission, nous avions évoqué quelques indicateurs de vieillesse mis en lumière par la chercheuse Linda Fried en 2001. Alors à 70 ans, voici quelques critères qui indiquent peut-être que l'on est en train de vieillir. Une vitesse de marche lente, une diminution de l'activité physique, une sensation de fatigue, une force diminuée, une perte de poids involontaire. Et Linda Fried considère également que l'on devient fragile si on cumule au moins trois de ces critères. Et puis il faut prendre en compte évidemment d'autres critères comme l'isolement ou la perte de mémoire. C'est toujours d'actualité cet indicateur de Fried, ou il y a des choses peut-être plus modernes, plus récentes?
Alors, c'est toujours d'actualité, mais il faut savoir que ce sont des indicateurs gériatriques. Ouais. C'est-à-dire que quand on rentre là-dedans, on est déjà un peu enfoncé dans son vieillissement et dans le mauvais vieillissement. Avant ça, on a d'autres marqueurs sont des marqueurs de physiologie. Et les marqueurs de physiologie, alors je peux vous prendre un exemple, deux même, trois, autant que vous voulez. C'est par exemple la rigidité artérielle. La rigidité artérielle, c'est, alors on va plutôt parler de l'inverse, de l'élasticité artérielle. C'est la principale caractéristique physiologique d'une artère. Et ça se perd à partir de 20 ans. Et c'est très intéressant parce qu'à 50 ans, on peut avoir une rigidité artérielle de quelqu'un de 70 ans. Mmh. Et donc, on porte le risque de quelqu'un de 70 ans. Et ça explique en partie que des gens qui semblent être en parfaite santé font des accidents vasculaires ou coronariens. Mais il y a aussi la masse musculaire. Et la masse musculaire, on en reparlera dans la nutrition. Cette masse musculaire, elle diminue. Vous pouvez, pendant 50 ans, être au même poids, mais tout change dans votre corps. Et ça s'évalue au gramme près. Et on peut, dès 40 ans, dès 35 ans, dès 50 ans, voir quel chemin vous allez prendre. Et c'est là où on peut mettre en route des mesures de correction, bien avant que votre pas ralentisse.
D'autres indicateurs ?
Oh oui, il y a tout ce qui est pulmonaire, par exemple, les capacités vitales. Il y a des éléments au niveau du cerveau. Il y a des tests cognitifs qui sont très performants et qui montrent que ça diminue. On peut mesurer les vitesses de conduction cérébrale. On a énormément de choses. Il y a la masse grasse viscérale que l'on peut mesurer chez nous, chez les hommes. Elle est une des meilleures caractéristiques du risque d'accident coronarien. Tout ça se mesure. Tout ça est accessible.
Il faut y être attentif dès la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine.
Moi, je dirais que 50 ans est vraiment un âge où on ne peut plus ne pas s'y intéresser.
Patrick Serreul.
Oui, c'est vrai que la grande différence aujourd'hui dans notre époque, c'est que nous sommes beaucoup plus investigateurs très tôt, en fait, des risques potentiels chez un être humain. C'est vrai, on demande un coroscan, on étudie par impédance-métrie la masse grasse viscérale que vous avez citée. Donc on est beaucoup plus informatif finalement vis-à-vis du patient et on lui conseille eh bien, de un certain nombre d'examens et de se prendre en main plus tôt qu'avant.
Baptiste Beaulieu, mal vieillir, c'est l'une des préoccupations quand on vient dans votre cabinet de médecin généraliste à Toulouse.
Oui, et c'est d'ailleurs un peu compliqué pour moi en tant que médecin généraliste parce que, vous savez, je pense que tous les soignants ont une vision très erronée de la vieillesse dans le sens où le cabinet médical ou même l'hôpital, quelque part, est une passoire, puisque les personnes qui vieillissent bien, en bonne santé, ne viennent pas me voir pour me dire « voilà, j'ai 77 ans, je vais super bien et je vais te donner 25 euros et ma carte vitale pour te dire ça ». Ça n'arrive jamais. Et du coup, y a ce biais-là, un biais de recrutement, quelque part. Et donc, oui, les personnes qu'on voit dans nos cabinets sont des personnes qui vieillissent avec des pathologies, qui vieillissent.
Est-ce qu'elles expriment cette peur du vieillissement ?
Ah, évidemment, d'autant plus que on parlait tout à l'heure de la retraite, de la perte du projet professionnel. Et c'est vrai qu'on vit dans un modèle très productiviste où ils vivent l'abandon comme ça de ce projet professionnel et la retraite comme une forme de perte d'utilité au sein de la société. Et c'est, je crois, une des raisons pour lesquelles aussi le corps se dégrade très très rapidement à partir de ce moment-là. Il y a quelque chose qui lâche à ce moment-là, oui.
Alors, j'aimerais préciser une chose, parce que souvent les gens ont peur des explorations. Quand ils sont dans un assez bon état, ils se disent « Oh là, je ne vais pas voir ce docteur. »
On peut les comprendre.
Parce qu'il va me trouver des trucs et pour l'instant je vais bien, alors c'est la terreur. Non, tout ce qu'on mesure par exemple dans notre institut en termes d'âge physiologique, on peut agir sur chaque chose, et parfois justement sur des choses très simples, avec des moyens très simples, pardonnez-moi. Donc, vraiment, ne perdez pas de temps, ne restez pas dans l'inconnu, on peut agir.
Quel est le rôle des gènes et de l'hérédité dans le processus de vieillissement ?
Alors écoutez, ça c'est très intéressant parce que je viens de voir encore une étude très récente là-dessus, et le rôle des gènes ne fait que de diminuer. Moi, il y a une quinzaine d'années, on parlait de 50%, ensuite 25-30%, et là sur la dernière étude que je viens de lire, on est à 10-15%. On n'est pas prisonnier de nos gènes. Ça c'est une notion très importante. Alors bien sûr, il y a des gènes comme certains cancers, où bon, ben, passer au travers est quasiment impossible, mais globalement, si j'ai juste une seconde, un gène va s'exprimer en fonction d'un autre gène, du fait que vous soyez heureux, du fait que vous mangiez bien, du fait que vous êtes sédentaire ou non. Et donc, en fait, il y a une très très grosse différence entre ce qu'on appelle le génotype, c'est-à-dire le génome, et le phénotype, c'est-à-dire ce que nous sommes. Et on peut agir.
Donc, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique ?
Exactement, exactement.
Et dans ce domaine-là, l'optimisme est un signe caractéristique. Les gens optimistes, on le voit d'ailleurs dans un certain nombre d'études, ont une espérance de vie bien plus importante que ceux qui sont tout à fait pessimistes.
Absolument.
Au cœur de votre livre, docteur Patrick Serreul, le plaisir. Le plaisir est central.
Oui, alors le plaisir, il est central.
Pour bien vieillir.
Oui, aussi bien quand on veut mettre en place un nouveau projet, aussi bien quand on va manger, aussi bien quand on va avoir une activité physique, il faut qu'il y ait du plaisir. Alors le plaisir, c'est vrai, ça entraîne une sécrétion d'endorphines, une sécrétion d'hormones dans la tête, mais c'est vrai qu'il y a le plaisir, il y a le bonheur, qui à ce moment-là est une notion beaucoup plus pérenne, que le plaisir qui est beaucoup plus rapide, et puis il y a le désir. Et s'il y a du plaisir, eh bien le désir revient, réapparaît, et à ce moment-là, c'est une sorte de cercle vertueux dans lequel on va être entraîné.
Et puis pour vous, Christophe de Jageur, il est très important de changer de philosophie de vie pour bien vieillir. Il faut savoir remettre en question ses certitudes. Plus facile à dire qu'à faire.
Oh, c'est certain. Ça, c'est, je dirais, pour bien vieillir, c'est la première chose à faire. C'est qu'il faut changer son état d'esprit. Alors certains ont beaucoup de chance parce qu'ils ont d'emblée, depuis toujours, un état d'esprit très positif. Ils sont toujours heureux, ils vont toujours vers les autres. Et la gestion de son vieillissement, c'est pas quelque chose, c'est pas des cures de temps en temps, c'est pas des régimes de temps en temps, c'est une hygiène de vie de tous les jours. C'est un peu comme on se brosse les dents tous les jours, on se pose même plus la question. Et c'est ça qui est important. Et il faut y croire, il faut le souhaiter, le vouloir, et savoir que ça ne se fait pas seul, ça se fait au milieu des autres.
Patrick Sérogue.
Non, ça me rejoint l'idée de l'optimisme. Hein. Mmh. Ceux qui sont optimistes s'en tirent finalement beaucoup mieux que les pessimistes. Donc c'est ça qu'il faut absolument entretenir.
Bonjour Françoise, bienvenue.
Oui, bonjour.
Voilà, vous avez une voix très jeune.
Ça me fait bien rire. Bon, allez, je vous écoute.
Non, mais vous nous avez appelé, vous avez 80 ans, c'est ça?
Oui, et
vous nous avez dit que vous... Bon, et vous nous avez dit que vous vous sentiez plutôt pas mal intellectuellement. Hein,
ça va, moi je trouve que c'est pas mal, mais ouais. Je disais que c'était le regard des autres ouais. qui faisait que tout d'un coup, on sentait qu'on avait 80 berges et qu'on était vieux. Et ça, je trouve ça terrible. Au moment du Covid, tous nos politiques, quand ils parlaient des vieux, et moi je me retournais pour savoir à qui ils causaient. Et c'était à moi qui causaient. Là, ça, franchement, c'est un peu dur. Hein.
Et ça s'exprime comment au quotidien, ce regard sur votre âge? Racontez-nous un petit peu.
Moi, je fais partie d'associations, je fais des lectures, je fais des lectures. Alors, je chantais, maintenant, je chante plus parce que c'est trop long. Les chorales, c'est une heure debout, deux heures debout. Mmh. Alors là, c'est là que je sais que je suis un peu vieille. Je me baigne quand il fait très, très beau, je suis normande. Et puis, je rencontre des gens, je vais au cinéma, je vais au théâtre, j'écoute de la musique, et puis j'ai des amis, j'ai des vieux amis, et voilà, et tout va bien.
Mais tout va bien, oui. Et on sent bien que tout est possible à 80 ans et plus, là, Françoise.
Mais bien sûr, et puis de toute façon, le truc qui pourrait être négatif, c'est de savoir que je vais mourir un jour, mais comme tout le monde. Hein.
Oui.
Et quand j'en parle, on me regarde un peu catastrophée, et je dis, mais attends, j'ai une chance extraordinaire d'avoir vécu jusqu'à 80 berges. Donc on verra bien, mais je trouve que déjà derrière, même s'il y a eu des soucis, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis je suis une passionnée de fleurs.
Oui, alors la notion de l'âge, à quel âge on se sent vieux? Alors je voudrais juste citer la phrase de Bernard Pivot, parce que je la trouve très belle. Il dit « Quadragénaire, je fixais le grand âge à 70 ans, arrivé à 70, je l'ai repoussé à 80, à 80, j'ai reculé à 90. Qui sait en voyant Nona à 95 ans si je n'irai pas jusqu'à 100 ans ?» C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à chaque étape de la vie, en fait, on repousse un peu plus cette notion de se sentir âgé. Et c'est vrai, tant qu'on se sent bien, il n'y a pas de raison, on n'est pas vieux.
Christophe Jager.
Alors, ce témoignage est très intéressant parce que on voit que cette personne a envie de faire plein de choses, elle est attirée par la vie, mais on voit que par exemple elle renonce à sa chorale et elle devrait pas renoncer à sa chorale. Elle devrait se battre pour continuer à avoir l'énergie de rester debout. Et ça, ça s'entraîne. Et c'est là où on commence à rentrer, alors dans quelque chose qui est pas confortable, parce que c'est un combat. C'est je n'accepte pas ça. Parce que le drame du vieillissement, c'est qu'à chaque fois qu'on descend une marche, on pourrait plus remonter. Donc il faut s'accrocher à cette marche. Et on peut le faire. Il y a des tas de choses que l'on peut faire. Et j'aimerais, juste par rapport à l'âge, revenir sur une notion qui est très intéressante, c'est qu'en fait on a trois âges. On a l'âge chronologique, facile, c'est la date de naissance. Mais on a aussi l'âge ressenti. Et il y a une très belle étude de Boston qui a montré ça, et elle est parue il y a 2 ans, et que cet âge ressenti, il est toujours inférieur à l'âge chronologique. Et il est maximum de -10 à -15 ans, entre 50 et 65 ans. C'est-à-dire, à l'époque où il faut qu'on se pose des questions sérieuses sur sa santé, sur son capital santé, on se dit, on n'a pas besoin, je suis jeune. Et l'âge physiologique, lui, il est au-dessus de l'âge chronologique. Et il y a une phrase de quelqu'un de connu qui disait, on est vieux quand on commence à dire qu'on n'a jamais été aussi jeune.
C'est pas faux. Françoise, vous ressentez quel âge? Vous ressentez quel âge en vous, dans votre esprit?
Je sais pas, moi, quand des messieurs me disent me disent pas que je fais pas mon âge, je fais la gueule. Hein. je sais pas. Je sais pas, peut-être 70 ans, j'en sais rien.
Ah, voilà, écoutez.
J'en sais rien. Mais par contre, j'ai entendu ce qui vient d'être dit. Peut-être que je vais retourner à la chorale.
Ah, bravo.
Merci, madame.
Je fais du gospel. Et puis, on a une super nana qui fait du gospel.
Merci à vous, Françoise, de nous avoir appelé. N'hésitez pas, comme Françoise, à nous appeler au 01 45 24 7000 ou à nous laisser une note vocale sur l'appli France Inter. Allez, on écoute France Gall. Viens, je t'emmène.
Toi qui as posé les yeux sur moi.
Je t'emmène.
Vous ne comptez pas me faire manger dans la cuisine tout de même.
Si. Grand bien vous fasse.
J'ai pris des paupiètes, ça vous va?
Ali Rébéi.
Ça peut pas tomber mieux.
Sur France Inter.
J'ai horreur de ça.
10h30 et ce matin, des conseils pour bien vieillir. Ça passe notamment par l'assiette. Toutes vos questions au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter.
Emiko, 71 ans, est installée à Ogimi, village de 3000 âmes, connu pour abriter un nombre record de centenaires. En observant les recettes des anciens, elle a créé le menu longévité à base de légumes de saison, tout simplement.
Ce que nous cultivons dans le potager, nous le cuisinons et les clients le dégustent tout de suite. Nous avons un mode de vie où le potager et la cuisine sont étroitement liés. Et en tant que nutritionniste, je sens que la nourriture est très fraîche.
Moyenne d'âge de ses clientes, 91 ans. Toujours active, danseuse, productrice de tofu ou présidente d'association, Kikue, Shio et Yukiko ont un appétit pour la vie inépuisable. Une alimentation naturelle, une vie active après la retraite et une joie de vivre singulière, c'est donc cela le secret de la longévité.
Un extrait d'un reportage d'Euronews en 2019. Alors, docteur Patrick Serroc, vous publiez « Bien manger, bien vivre, bien vieillir ». Le plaisir, la joie de vivre, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'un des secrets du bien vieillir. Mais comment conserver ou retrouver ce plaisir quand la perspective de vieillir rime avec finitude, mort?
Oui, alors, et surtout quand notre vie ou la vie des gens que nous voyons ont été fracassés et difficultés. Alors, en fait, dans ce désespoir que certains peuvent ressentir...
Quand on vit avec une petite retraite.
On vit une petite retraite, difficile à joindre les deux bouts. Il faut essayer de trouver un petit plaisir quotidien. un petit plaisir. Ça peut être quelqu'un qu'on va qu'on aime bien, qu'on va rencontrer, avec qui on va pouvoir parler, échanger quelques minutes. Ça va être pour ceux qui aiment lire la lecture de certains ouvrages. Chacun va trouver un petit plaisir. Et finalement, quand je vois des patients comme ça, j'essaie de voir avec eux, de lister en fait qu'est-ce qui pourrait bien leur donner un petit plaisir quotidien.
Alors le plaisir passe notamment par l'assiette. Pourquoi est-ce si important ?
Alors pourquoi est-ce si important de bien manger ? Parce que en fait...
Avec plaisir.
Avec plaisir. Parce que s'il n'y a pas de plaisir, en fait on va manger de moins en moins.
Avec le spectre de la dénutrition.
Avec surtout ce spectre-là de la dénutrition, c'est-à-dire de la perte de la masse musculaire, et qui va entraîner des maladies et qui va entraîner une infirmité au long cours. Donc il faut absolument lutter contre ça. On croit toujours que quand on vieillit, on a besoin de manger moins. Et c'est faux. Au contraire, on doit manger comme lorsqu'on était en pleine activité, un adulte d'âge mature. Il faut manger suffisamment. Autrement, on ne peut pas avoir ni les minéraux, ni les vitamines, ni les protéines en quantité et en qualité suffisante.
Quels sont les apports nutritionnels idéaux après 65, 70 ans ?
Alors, c'est avant tout d'essayer de faire des repas. C'est en faisant des repas qu'on arrive à avoir tous ces nutriments. Donc, c'est des protéines qui sont absolument très importantes. Et les protéines, ça va avec les glucides. Parce que si on ne mange pas suffisamment de protéines, eh bien, il y a une moins bonne incorporation des protéines dans le corps. Ensuite, il faut manger, on a dit des glucides, il faut manger des lipides, bien sûr, des graisses. On a besoin d'oméga 3, d'oméga 6.
Expliquez pourquoi, rappelez pourquoi les acides gras sont aussi essentiels quand on vieillit.
Eh ben, comme on les appelle, les acides gras essentiels, ce sont ceux que nous ne sommes pas capables de fabriquer. Il y en a deux, les oméga 3 et les oméga 6. Ils permettent de régler un certain nombre de problèmes au niveau de notre coagulation sanguine, au niveau de la plasticité de notre cerveau. Et donc, on a besoin d'en manger. Pas en très grande quantité, mais en quantité suffisante. Combien je vois de personnes âgées qui font des régimes, qui vont supprimer de leur alimentation les huiles, le beurre, les margarines et tout ça. Et d'abord, ils vont perdre du plaisir, puisque c'est le gras qui transporte le plaisir. Et deuxièmement...
Le gras, c'est la vie.
C'est la vie. Et ils vont manquer en plus d'acides gras essentiels.
Christophe de Jageur, je rappelle que vous êtes médecin gériatre.
Oui, je crois d'abord et je suis complètement d'accord avec mon confrère Serge sur ce qu'il vient de dire, je crois qu'il faut bannir le mot régime à partir d'un certain âge. Bannir. Dès que quelqu'un vous dit « je fais un régime », stop. C'est pas possible. Ensuite, je crois que c'est très difficile de rentrer dans tout ce qui est comptage de calories, de choses comme ça, et il faut effectivement que les gens mangent un peu de tout, ou raisonnablement de tout. Il ne faut pas s'interdire des choses. Et j'insiste sur les protéines, parce que en vieillissant, on a moins envie de manger de protéines, et les gens ont tendance à se réfréner là-dessus, et ils se retrouvent ensuite face à des carences qui sont très importantes, parce que les protéines, on a besoin de protéines, c'est tout notre corps fonctionne avec des protéines. Donc, il faut les rassurer là-dessus, les protéines ne sont pas négatives, et les protéines, c'est pas que l'entrecôte, hein. Vous avez toutes les viandes blanches, vous avez le poisson, vous avez les légumineuses. Il y a plein de choses pour avoir des protéines en étant heureux. Ensuite, c'est vrai que les besoins vont dépendre des gens. Les besoins ne seront pas les mêmes en fonction de si on est un homme, une femme, si on fait du sport, si on n'en fait pas, etc. Et tout ça, ça rentre à ce moment-là dans une analyse plus fine. Mais si on veut rester global, ce qu'on vient de dire là est fondamental. J'ai peut-être un petit bémol sur les sucres. C'est vrai que les sucres sont... on mange moins de protéines en vieillissant, on mange plus de sucre parce que les sucres montent très vite au cerveau et sont dans la récompense, dans le plaisir, etc. Et Dieu sait si on a besoin de plaisir, ça rentre dans les petits plaisirs que vous évoquiez qui font que notre journée vaille la peine d'être vécue pour certains. Mais pas trop, pas trop. Je crois que par nature, on en mange trop et malheureusement, ces sucres entraînent une glycation et cette glycation va...
C'est quoi la glycation ?
Alors la glycation, c'est quand on a trop de sucre et à ce moment-là, ce sucre, c'est une petite molécule, le glucose. Ça diffuse dans tout l'organisme et quand il y a trop de sucre, ça va agréger les protéines. Vous allez créer des blocs de protéines qui sont non fonctionnels et qui vont créer une réaction inflammatoire. Et donc vous allez avoir de l'inflammation, etc. Et toute une cicatrisation derrière. Et ça, au niveau du cerveau, des yeux, etc., c'est pas bon.
Une question de Fabrice qui nous demande, en dehors de son aspect pondéral, le jeûne est-il bon pour bien vieillir ?
Alors, le jeûne
thérapeutique.
Bon, alors, il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites sur le jeûne chez les animaux qui montraient qu'effectivement, quand on mettait au jeûne des animaux, ils vieillissaient, ils vieillissaient plus longtemps. Ça n'empêche que, aujourd'hui, chez l'être humain, nous n'avons pas d'expérimentation sur le jeûne. Tout simplement parce que ça dure trop longtemps pour expérimenter. Et deuxièmement, chez la personne âgée, le jeûne est particulièrement dangereux dans la mesure où, évidemment, ça va être une restriction calorique et donc un régime et ensuite une diminution de la quantité de protéines qui va être ingérée. Et donc, à ce moment-là, on va arriver à la dénutrition. Donc, il faut éviter le jeûne classique, dirons-nous, chez ces personnes-là.
Vous rappelez une chose importante dans votre livre, retrouver le plaisir de manger quand on est âgé réactive le circuit du plaisir que l'on a connu dans son enfance en savourant une cuisine familiale.
Oui.
Il est important, quand on vit, de renouer avec la cuisine de son enfance.
Oui, c'est important de renouer avec la cuisine de son enfance parce que ce sont des goûts qui se sont imprimés dans notre cerveau très tôt, que l'on va retrouver et que l'on va rechercher. Et on voit très bien dans les ces maisons de retraite, on voit très bien que lorsque on donne une cuisine qui n'est pas adaptée à chacun, eh bien les gens mangent avec peu d'appétit et de moins en moins. Et retrouver ces goûts-là, c'est formidable.
Et il est important aussi de rappeler que manger, c'est pas seulement une fonction nutritionnelle, c'est également un acte relationnel et qu'il est important de ne pas manger seul. Enfin, d'essayer de ne pas manger seul, parce que évidemment.
Voilà, essayer.
Il
y a beaucoup de gens qui mangent seuls, et ça, c'est aussi un vrai problème. Mais c'est vrai que les aidants et les familles peuvent vraiment essayer de venir le plus souvent possible pour partager le repas. Il y a même des associations qui font que des enfants peuvent venir partager avec des gens plus âgés ces repas. Et c'est une très bonne idée. Ça leur donne beaucoup de joie.
Christophe Dejager.
Oui, j'ai une question pour Patrick. C'est, là, on parle du jeûne, mais moi, j'aimerais que vous nous donniez votre avis sur ce jeûne intermittent qui fait fureur.
Oui, absolument.
Tout le monde en parle.
Oui. Alors, le jeûne intermittent, quand il est, par exemple, fait entre le soir, on arrête de manger vers 20h, 20h30, et on va attendre midi ou 13h pour manger, ce jeûne intermittent n'a pas d'effet nocif à partir du moment où, un, la personne le matin, dans la matinée, n'a pas très faim, et est obligée de se restreindre. Et deuxièmement, si elle est capable, dans le reste de la journée, de manger la quantité alimentaire souhaitable. Là, ça n'a pas d'importance. Mais si jamais ce jeûne intermittent entraîne, comme chez beaucoup, une diminution de la consommation alimentaire, alors, chez la personne qui vieillit, c'est un vrai handicap.
Tiens, question, docteur Serog, est-ce que l'agueusie, c'est-à-dire la perte de goût, nous guette quand on vieillit? Et évidemment, la perte de goût peut entraîner la perte de plaisir, la dénutrition. Il faut être très attentif à ça.
Oui, l'agueusie, c'est vrai, peut arriver au cours d'un phénomène d'une maladie inflammatoire, par exemple.
On l'a vu avec le Covid.
On l'a vu avec le Covid, une maladie virale. Évidemment, ça peut arriver. Et chez la personne âgée, c'est beaucoup plus handicapant que chez la personne qui n'est pas âgée. Parce que tout ça, simplement, à ce moment-là, elle va brutalement diminuer son appétence pour les aliments et donc manger beaucoup moins et se dénutrir plus facilement. C'est la raison pour laquelle on essaye de pallier à ça par des apports en zinc, par exemple, qui augmentent l'appétence, mais pas chez tout le monde, il faut le dire. Mais on essaye de lutter contre ça.
Tiens, j'ai pioché quelques vrais faux du bien vieillir dans votre livre, docteur Serog. Quand on vieillit, il faut manger moins le soir.
Alors non, il faut pas manger moins le soir. Ça, c'est un grand classique. On va prendre juste un café au lait avec une tartine. Ça, c'est typique de ce que nous disent. Ou une soupe. Alors, bien sûr, parce que les gens...
On va pas se forcer si on n'a pas faim non plus.
Mais ils se disent oui, parce que, en fait, je digère plus facilement et je vais mieux dormir. Voilà la raison que ces gens invoquent. Or, en fait, il faut essayer de commencer à ce moment-là à manger plus tôt. C'est-à-dire faire une collation dans l'après-midi, puis enrichir, si on veut qu'une soupe le soir, il faut l'enrichir avec des protéines. On peut l'enrichir avec des protéines de lait, on peut l'enrichir avec du fromage, de telle manière à avoir suffisamment d'aliments et on peut finir avec des crèmes. Vous savez qu'il y a une recette chez les personnes âgées qui est formidable, je trouve, qui est l'entremets. C'est très facile à faire, hein. Vous prenez des œufs, vous prenez du sucre, vous prenez du lait, et vous faites quelque chose de délicieux qui coule dans la bouche et tout. Et
bien, vous rajoutez des raisins secs, macérés dans du rhum, ça peut
Par exemple,
ça donne encore plus de plaisir. Quand je serai vieux, c'est ce que je ferai.
Oui, c'est une façon magnifique de manger suffisamment.
C'est un autre vrai faux, docteur Serog. Quand on vieillit, on doit prendre de la vitamine D, du calcium et des vitamines du groupe B.
Oui, alors la vitamine D, bien sûr, parce que toute la population en général est en insuffisance de vitamine D, certains en carence. Hein, ça permet effectivement d'absorber le calcium. Le calcium, il est beaucoup mieux absorbé dans les laitages. Et si on ne peut pas aller laitage, il faut utiliser de l'eau riche en calcium. Bon, et puis les vitamines du groupe B, parce qu'elles sont absolument indispensables à notre activité. Hein, et si on diminue notre alimentation, on va avoir une diminution d'apport en vitamine B.
J'ai un bémol, moi, par rapport à tout ça. C'est que nous sommes tous très inégaux et qu'il faut en fait doser avant et doser après. Diagnostic d'insuffisance en vitamine D, on donne de la vitamine D, on redose 2 mois après. Pareil pour toutes les vitamines.
Bien sûr.
Merci pour cette précision, docteur de Jageur. Il est temps de retrouver la chronique, alors voilà, de notre médecin et romancier Baptiste Beaulieu.
France Inter, grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais 1 heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Baptiste Beaulieu.
Oui, Aline, je voulais vous raconter comment, il y a 5 ans, quand je me suis installé comme médecin généraliste, l'une des premières familles à m'accorder sa confiance était une famille de personnes sans papier et qui avaient migré en France pour aider leur fille. Celle-ci avait sauté sur une mine à l'âge de 6 ans et elle avait dû être amputée de sa jambe. C'était une petite fille très énergique et très sportive à l'époque du drame, et quand je l'ai rencontrée, elle était alors une jeune adolescente très énergique et très sportive, mais qui avait dû sacrifier son activité favorite sur l'autel du handicap. Elle ne pouvait plus courir. Sa prothèse était une prothèse bas de gamme qui lui occasionnait d'atroces douleurs au moignon et l'empêchait de se mettre en appui. Et à l'époque, j'avais été touché par leur histoire, je m'étais défoncé pour réunir autour d'elle une équipe pluridisciplinaire et avec un chirurgien génial qui accepte de reprendre son moignon au bloc opératoire et un prothésiste formidablement impliqué, prêt à tout pour améliorer la qualité de vie de cette jeune fille. Et là, Ali, on touche du doigt ce qui fait parfois l'étrangeté de la médecine générale. On se fait le relais entre le spécialiste et le patient et quelquefois, à cause de la charge de travail des uns des autres et pour tout un tas d'autres raisons indépendantes de notre volonté, on sort de la boucle et on reste sans nouvelles d'un patient qui nous avait pourtant beaucoup émus. Eh bien, cette jeune fille est revenue récemment au cabinet médical avec 6 ans de plus et un smartphone. Son français est impeccable. Elle rentre au lycée et elle veut me remercier. Je m'étais défoncé pour elle à l'époque et elle ne l'a pas oublié. Et ses parents, qui sont présents durant la consultation ce jour-là, non plus. Elle soulève tout sourire le bas de pantalon de sa jambe droite et me montre l'extraordinaire lame de carbone qui lui sert désormais d'appui. Je n'ai presque plus de douleur, docteur. Puis elle m'explique qu'elle a subi plusieurs opérations pour atténuer ses souffrances. Alors, je dois bien avouer que j'ai pas tout bien compris, je suis pas chirurgien, j'ai tas d'autres défauts. Mais son os en croissance continue à pousser dans le repli du moignon. Bref, elle souffrait en permanence, mais plus maintenant, plus aujourd'hui. Et là, vous savez quoi, Ali ? Elle me tape sur l'épaule, elle me dit merci, puis elle sort son smartphone et du sourire dans les yeux, on se contente de ça avec ses fichus masques, elle me tend une vidéo. Regardez, docteur. C'est elle, au fond d'une rue. Son père la filme avec le téléphone. Le soleil se couche et on la voit qui s'élance et qui court vers le téléphone à toute vitesse, les bras levés. Elle me dit, ça c'est pour vous, docteur, cette vidéo c'est pour vous. Merci. Eh bien, que dire, Ali ? Moi, j'aime mon métier. Parfois, j'ai envie de fermer le cabinet plus tôt avec une affiche où j'aurais écrit « J'ai fermé plus tôt car ras-le-bol de vos problèmes ». Je ne le fais pas car c'est trop honnête et j'aurai des soucis avec le conseil de l'ordre.
Oui.
Mais parfois aussi, des gens nous rappellent pourquoi ça vaut le coup. Voilà. Merci les gens.
Ça fait du bien votre histoire, Baptiste Beaulieu. Vous pouvez réécouter ou partager cette chronique sur l'appli France Inter dans quelques instants. Quelle activité physique quand on vieillit ? On vous dit tout dans quelques instants, juste après General Electrics.
The sun is us. Stars don't sleep.
the fireball. The sun is us, the sun is us.
Électrique interprété Party Like a Human.
Grand bien vous fasse, Ali Rebbi, sur France Inter.
10h48 et ce matin des conseils pour bien vieillir et on vous attend au 01 45 24 7000 comme Yvette. Bonjour Yvette, vous appelez Décully.
Bonjour.
Bienvenue, tout va bien ?
Merci beaucoup de... pour... Merci. Oui, je vais très très bien. Bon,
vous avez l'air bien joyeuse en tout cas.
Oui, c'est peut-être ça qui me donne l'envie de continuer encore longtemps.
Oui, vous avez 90 ans, j'ai le droit de donner votre âge.
Hein. Mais bien sûr, bon. Il n'y a aucun secret, surtout que je dois en avoir beaucoup plus parce qu'il a été, fêté de nombreuses fois avec la famille, les amis, les voisins.
Alors, vous ne vous sentez pas vieille, pourquoi ?
Non.
Qu'est-ce qui fait qu'à 90 ans, vous vous sentez encore en pleine forme, avec un certain optimisme ?
Alors, je pense que... Est-ce que je le dois à un bon capital génétique ? Mmh. Est-ce que je le dois à une très bonne hygiène de vie ? Je le dois aussi beaucoup au fait que nous soyons encore deux, avec mon mari depuis 64 ans.
Ah, génial !
Que j'ai des enfants et des petits-enfants extraordinaires. Et de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis, et que nous avons encore beaucoup de projets, et un jardin, une maison à s'occuper, voilà, moi, j'adore lire, on mange très sainement, dans la mesure du possible, on va au marché, on achète bio, et j'ai tous les conseils que donnait le médecin présent, et ben, c'est tout à fait notre façon de vivre, les oméga 3, les oméga 6, les protéines, très peu de viande rouge, voilà.
Et puis le lien, vous parlez de lien, le lien amoureux, le lien amical, le lien social,
le lien
c'est amical, fondamental.
Le lien, bien sûr, le fait quand même d'être deux présents, voilà, ça aide beaucoup. On continue, on a un jardin, on s'occupe, on a une grande maison, mais on fait encore beaucoup de parties de Scrabble et on a atteint des scores assez honorables. Bon, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'activités artistiques. Donc ça, je continue un petit peu et voilà, c'est tout. Tout se résume à ça et des projets.
Tiens, on vient de recevoir un mail qui nous dit vous indiquez que les optimistes ont plus de chances de bien vieillir. Comment entretenir l'optimisme lorsque l'on n'a pas ce tempérament optimiste ? Qu'est-ce que vous avez envie de répondre, Yvette, à ce courriel ?
Là, c'est difficile à expliquer.
C'est difficile,
moi, je ne peux pas dire comment. Moi, j'ai toujours été optimiste.
Oui,
des fois j'ai des petits coups de blues, des petits coups de barre, mais je rebondis, je tape du talon et je saute.
Oui, Yvette, ça c'est dans vos gènes, ça. C'est formidable, vous êtes extraordinaire, vraiment. Vous êtes formidable. Alors quand on n'a pas quand on n'a pas la chance d'être optimiste, c'est vrai qu'on est pessimiste. Bon, je pense que ce qu'il faut regarder, c'est comme on dit le verre à demi plein ou demi vide. C'est-à-dire de se dire pour un même événement qui nous arrive, peut-être que ça aurait pu être pire. Et finalement, c'est pas si mauvais que ça. Hein? Donc c'est une façon, dirons-nous, d'avoir de l'optimisme sans pour autant, tout en restant pessimiste. Hein, voilà.
Merci beaucoup Yvette, je vais être invité aux 100 ans. Hein. Merci beaucoup.
Ah, mais c'est exactement ce que mes enfants et petits-enfants m'ont dit après m'avoir fait des superbes chansons. Ils m'ont dit rendez-vous dans 10 ans.
Ah, bah, écoutez, j'espère être là. Merci beaucoup Yvette, merci je vous souhaite aussi. Une très très belle journée. Merci pour ce message très optimiste. Et Baptiste Beaulieu qui est en train de bouger dans le studio. Bonjour Pierre-Élie Sautel.
Mais bonjour Annick.
Vous êtes spécialiste de l'activité physique adaptée. Vous enseignez notamment dans des écoles de kinésithérapie et à l'université. Vous avez collaboré au livre de Patrick Serog. Alors les autorités sanitaires recommandent de bouger pour bien vieillir. Alors oui, le corps change. Mais est-ce que la fonte musculaire est inéluctable? En sachant que la diminution de la masse musculaire débute dès l'âge de 30 ans.
Oui, tout à fait. Ce n'est jamais inéluctable.
Mmh. J'espère bien.
Il y a toujours moyen de pouvoir lutter contre ce cercle vicieux de déconditionnement physique. Mmh. On peut penser aussi que plus une fonction est sollicitée et plus elle se renforce. Mmh. Et l'inverse est vrai, c'est-à-dire que moins on l'utilise et plus elle se détériore. Mmh.
Quel est le point commun d'ailleurs entre les astronautes, les spationautes et les seniors?
Eh bien donc, les astronautes, tout comme aussi on peut dire les sportifs, sont beaucoup moins sollicités au niveau musculaire quand un spationaute est sur sa station spatiale, il n'est pas sollicité par la gravité terrestre. Quand le sportif arrête sa saison sportive et est en vacances, il n'a pas toutes les sollicitations aussi au niveau musculaire, au niveau osseux, au niveau neurologique. Et donc, il y a une perte de la masse et de la force musculaire qui en résulte.
Alors, cette diminution des aptitudes physiques est également liée à la sédentarité et en particulier à la position assise. Selon l'ONAPS, hein, l'Observatoire National de l'Activité Physique et Sportive, les trois quarts des 65-79 ans passent plus de 3 heures assis par jour. Il est donc très important, Pierre-Élie Sautel, d'avoir conscience de son degré de sédentarité.
Oui, tout à fait. Et donc la sédentarité, ce n'est pas simplement ne pas faire de sport. La sédentarité, c'est également le temps passé assis. Et donc cela, avec nos modes de vie de nos jours, notamment professionnels, on voit que cette sédentarité-là augmente de façon drastique.
Alors comment devenir moins sédentaire et comment se motiver à bouger? C'est ça la grande question aussi. Quand on a des douleurs, quand on se sent moins en forme, on n'a pas forcément envie d'activité physique et c'est un cercle, hélas, vicieux. Quel conseil pouvez-vous nous donner ce matin?
Et tout simplement d'essayer de rentrer dans un cercle vertueux en commençant par bouger dans son activité quotidienne. Et donc c'est là l'activité physique au quotidien qu'il faut augmenter, c'est-à-dire dans les déplacements. C'est-à-dire peut-être essayer d'être en position debout quand on téléphone, quand on travaille. On voit que dans pas mal d'établissements professionnels, il y a des ballons de gym qui sont mis pour remplacer les chaises classiques. Mmh. Et donc, une fois qu'on a commencé à faire ces premiers petits pas, on peut chercher à aller un peu plus loin en rentrant dans une activité physique peut-être un peu plus encadrée. Et donc là, après, c'est dû au plaisir de chacun, variable en fonction du plaisir de chacun de s'inscrire dans une activité ou dans une autre.
Et encore le plaisir, Christophe de Gégeur.
Oui, je note que on va passer une heure tous les quatre assis là. Hein. Il va falloir qu'on se rattrape après. Moi, j'aimerais juste dire, c'est fondamental ce qui est dit là. C'est en référence au métabolisme de base. On a un métabolisme de base qui diminue et qui est essentiel à maintenir.
C'est quoi le métabolisme de base en quelques mots?
En quelques mots, c'est l'énergie que nous consommons au repos. Et cette énergie diminue avec le vieillissement. Et c'est lié au fonctionnement de nos intestins, de nos muscles, de notre cerveau. Et on peut l'augmenter, ce métabolisme de base, de façon simple, en faisant du muscle. Et il n'y a qu'une seule façon de faire du muscle, c'est de faire des sports contre résistance. Et du coup, en ayant un peu plus de muscle, ça veut dire qu'on va consommer 24 heures sur 24 plus d'énergie, donc plus de calories, etc. Donc, c'est quelque chose qui est fondamental à notre santé. Alors, on peut le faire avec des exercices.
Par exemple ?
L'exercice le plus simple du monde, c'est de faire du gainage. Le matin, vous mettez allongé sur le ventre dans votre salle de bain ou dans votre chambre, et vous faites la planche. Une minute, vous
essayez
de tenir.
Hein.
Sur les avant-bras. Une minute, alors qu'il faut y arriver progressivement, mais 5 fois de suite. 5 fois de suite, et c'est remarquable.
Mais attention, Pierre-Élie Sautel, il est important de choisir une activité physique qui correspond à son état physique. Il faut rester lucide sur son état de forme. Hein.
Oui, tout à fait. On n'entre pas dans une activité physique sans préparation préalable. On recommande toujours d'avoir un check-up médical préalable, et puis ensuite de choisir une activité physique qui soit adaptée en fonction de ses possibilités. On recommande notamment pour les seniors des activités dites sportives, c'est-à-dire ces activités-là vont solliciter peut-être un petit peu moins les articulations. Je pense à la marche nordique, où on sait que, par exemple, l'utilisation de bâtons pour la marche permet de diminuer d'environ 30% le poids sur les articulations. Je pense également à la natation, je pense également au vélo. Toutes ces activités sont idéales pour débuter dans une activité physique de manière progressive.
On peut investir dans un vélo d'appartement, notamment. Oui. Un mot de conclusion, docteur Serog.
Je voudrais revenir aux 4 piliers dont vous avez parlé. C'est accepter d'abord de recevoir des autres. Quand on vieillit, c'est plus difficile, mais il faut essayer de le faire. Trouver un sens à sa vie, bien manger et bien bouger également.
Christophe de Chageur.
C'est parfait. Il faut avoir l'envie de bien vieillir.
Merci beaucoup, Christophe de Chageur. On peut lire avec profit « Bien vieillir sans médicaments », c'est chez
Cherche Midi.
Et merci beaucoup, docteur Patrick Serog. « Bien manger, bien vivre, bien vieillir », c'est publié aux éditions In Press. Merci Pierre-Élie Sautel et merci Baptiste Beaulieu. Demain, on s'intéressera à l'amitié au masculin avec le mensuel Philosophie Magazine. Dites-nous, par exemple, s'il existe une différence fondamentale pour vous entre les amitiés masculines et les amitiés féminines en nous laissant une note vocale sur l'appli France Inter.